Content d'être avec vous, chers amis. Merci Seigneur pour ces témoignages. C'est chouette à entendre, c'est beau à entendre. Donc continuons à partager ces choses entre nous. J'ai deux choses à vous dire avant de passer à la prédication. La première, ne vous inquiétez pas, la prédication sera plus courte. Je peux lire ça dans vos pensées en ce moment même, dans la pensée des enfants qui sont là. On ne va pas lire tout Ecclésiaste 1 et méditer tout Ecclésiaste 1, mais juste quelques versets choisis. Mais ce sera quand même une prédication et on va quand même se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et la deuxième chose à vous dire, c'est courage avec le froid. Je suis content de prêcher ce matin pour pouvoir bouger un petit peu. Donc si vous devez bouger un petit peu, je vois Mirtcha derrière moi qui bougeait un petit peu, il n'y a pas de souci. C'est permis de faire ça pendant que je prêche. Je ne serai pas déçu. Voilà, prions avant de nous tourner vers la parole de Dieu, de lire et de méditer la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions parce que cette année encore, on peut compter sur toi et compter sur ce que tu nous as fait connaître dans la Bible, la manière dont tu t'es révélé à nous. On te prie, notre Dieu, alors que l'on médite les vérités du livre de l'Ecclésiaste, on te prie que tu ancres ces vérités dans notre cœur par ton esprit, pour qu'on puisse aborder cette année 2025 avec réalisme, en n'étant pas naïf face au caractère de cette vie et en nous confiant en toi. On prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est peut-être la réflexion qu'on a en ce moment. On est en train de passer à une nouvelle année. On aborde 2025, on a des projets, on dresse un certain bilan, comme on l'a entendu dans les différents témoignages. Et on peut se demander qu'est-ce que 2025 aura de différent de ce qui s'est passé en 2024. Est-ce qu'on peut espérer même une différence? Est-ce qu'on peut espérer un changement? On va méditer ce matin quelques vérités du livre de l'Ecclésiaste, parce que je suis convaincu que ces vérités peuvent nous aider à aborder 2025 de la bonne manière et à réaliser qu'en fait, on ne peut pas attendre grand-chose de différent de 2025. En fait, on va voir que les versets qu'on va méditer et le livre de l'Ecclésiaste en entier nous aident à comprendre ce que j'appelle le syndrome du panier à linge sale. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, un panier à linge sale, s'il n'y a pas ça, pas de souci, vous n'êtes pas jugé, il n'y a pas de problème, mais vous avez un endroit en tout cas où vous mettez le linge sale. Et c'est vraiment horrible, parce que qu'est-ce qui se passe avec ce panier-là? On le vide, on lave le linge, il est vide, et puis quelques jours après, il est rempli à nouveau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le vide encore une fois, et puis quelques jours après, il est rempli à nouveau. Encore et encore. Sans fin. Ça, c'est le syndrome du panier à linge sale. Et ce n'est pas vrai que pour le linge sale, c'est vrai pour toutes les choses de cette vie. Et c'est ça que l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, nous enseigne. Que le syndrome du panier à linge sale fait partie de cette vie ici-bas. Il fera partie de notre année 2025. Et on ne doit pas s'attendre à ce que ça change. Donc on va regarder quelques versets dans ce livre de l'Ecclésiaste, et ce n'est pas un livre qui a pour but de nous faire déprimer, mais c'est plutôt un livre qui a pour but de nous aider à être réalistes face au caractère de cette vie. Comme un commentateur le dit, ou le titre de son commentaire, c'est « Apprendre à faire face à la vie telle qu'elle est, vivre la vie telle qu'elle est ». Nous aider à bien vivre, on pourrait dire, quand tout déçoit. Tout déçoit, c'est ça la conclusion, le constat de ce livre dès le début. Donc si vous regardez avec moi Ecclésiaste chapitre 1, vous avez les versets dans le livret, le verset 2, voilà la thèse de base, l'affirmation de base de ce livre qui est répétée plusieurs fois. Ecclésiaste 1, verset 2, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » C'est ça que tout le reste de ce livre va démontrer, que tout est vanité. Ça veut dire quoi, vanité des vanités? On connaît ça dans le langage populaire. On pourrait traduire aussi futilité complète ou tout est dérisoire. Le mot qu'on traduit par vanité, littéralement, c'est le mot vapeur. On pourrait dire vapeur des vapeurs, tout est vapeur dans cette vie. C'est-à-dire que non seulement ça ne dure pas, c'est un peu comme quand il fait froid, on a de la buée qui sort de notre bouche quand on respire, quand on souffle dehors, et ça ne dure pas. Ça disparaît tout de suite. Ça s'envole, c'est éphémère. Mais ce mot, le mot vanité, pointe aussi vers quelque chose qui n'a pas de consistance, quelque chose qui est creux, quelque chose qui n'est pas fiable, quelque chose qui est décevant. Le livre utilise plus loin l'image de poursuivre le vent. Alors il y a quelques enfants ici, vous êtes avec moi les enfants, je vous parle juste pour une seconde, quelques secondes, un peu plus. Est-ce que vous avez déjà essayé de poursuivre le vent? Vous avez déjà essayé de courir après le vent? Non? Essayez cet après-midi. Alors peut-être il pleut, ça marche moins bien. Mais essayez cet après-midi d'aller dehors et de courir après le vent. Et ça vous occupera, vos parents pourront faire la sieste. Ça marche pas vraiment, n'est-ce pas? De courir après le vent, de poursuivre le vent, ça mène nulle part, c'est impossible. Mais l'Ecclésiaste nous dit, c'est ça en quoi consiste toute cette vie. Ou alors c'est un peu comme on pourrait dire, essayer de marcher sur le trottoir après qu'il ait neigé. Alors juste après qu'il ait neigé, ça va, c'est la poudreuse, mais une fois que plusieurs personnes ont marché dessus, que ça a gelé, waouh, ça glisse. C'est pas stable, c'est pas fiable. C'est ça que ce livre veut nous montrer, que dans la vie, tout déçoit. Rien ne dure, tout est éphémère, comme de la buée qui sort de notre bouche, et rien ne satisfait, rien n'est fiable. Tout est aussi décevant que marcher sur la glace ou de courir après le vent. Un ami vient d'écrire un livre sur le livre de l'Ecclésiaste en anglais, et le titre c'est « Tout n'est jamais assez ». On a beau tout avoir, c'est jamais assez. C'est ça le constat de ce livre de l'Ecclésiaste. Alors j'imagine que ce n'est pas dur pour nous d'être conscients de cela. On est convaincus de cela par notre expérience même. Mais ce livre de l'Ecclésiaste et ce chapitre 1 nous donnent plusieurs preuves. Alors j'ai mis le plan sur le livret, mais par souci de temps et par amour pour vous, j'ai réduit un petit peu. Donc on va sauter la première preuve, les versets 3 à 11. Vous pouvez voir ça par vous-même chez vous. Mais le chapitre 1 veut prouver que tout déçoit dans cette vie. Et il va parler du monde au début, de la nature, mais ensuite on va regarder la deuxième preuve, tout déçoit, l'Ecclésiaste lui-même en est témoin, dans les versets 12 et suivants. Tout déçoit, c'est ça le constat, l'Ecclésiaste lui-même en est témoin. L'Ecclésiaste, c'est le nom de ce livre, oui, mais c'est aussi une personne. Et c'est un titre qui évoque l'idée d'un maître de sagesse, un sage, un enseignant. On pourrait dire. Dans ce livre, c'est lui, ce maître de sagesse, qui parle. Et lui, il a tout essayé. Vraiment tout essayé. C'est quelqu'un qui était roi d'Israël à Jérusalem et qui avait accès à tout ce qu'on peut imaginer, de bon ou de mauvais, qui existe sur terre. La sagesse, la connaissance, la richesse, le pouvoir, les plaisirs humains, il avait tout. Il a tout essayé. Il a tout analysé. Et il nous livre sa conclusion. Et voilà sa conclusion. On va la lire au chapitre 1, les versets 12 à 14. Donc lisez, regardez avec moi chapitre 1, versets 12 à 14. Moi, l'Ecclésiaste, je suis devenu roi d'Israël, roi sur Israël à Jérusalem. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Et qu'est-ce qu'il dit ? Voici que tout est vanité et poursuite du vent. Voilà l'Ecclésiaste, le grand sage, il a tout essayé, vraiment tout. Et il nous dit, les amis, je vous confirme, tout dans ce monde est vanité et poursuite du vent. Tout déçoit. C'est pas que tout est aussi mauvais que ça pourrait l'être. C'est pas que tout est négatif, mais c'est que tout dans ce monde est atteint par ce caractère vaporeux, on pourrait dire, de vapeur, éphémère et décevant, pas satisfaisant. Tout déçoit d'une manière ou d'une autre. Et une réaction naturelle en pensant à ça, en entendant ça, c'est de penser, mais ça c'est le cas de la vie sans Dieu. Oui, si on rejette Dieu, alors on sera jamais vraiment satisfait. Alors on sera constamment frustré. Oui, oui, sans Dieu, on ferme la porte à la joie dans ce monde. Mais avec Dieu, c'est totalement différent. Et il n'y aura pas de déception face aux choses de la vie. On peut facilement penser comme ça. Mais en fait, ce ne serait pas totalement juste de réfléchir de cette manière-là. Parce que la conclusion de l'Ecclésiaste qu'on vient de lire, ce n'est pas la conclusion d'un incroyant qui rejette Dieu, qui n'a pas Dieu dans sa vie. Au contraire, on voit à plusieurs reprises dans ce livre que l'Ecclésiaste reconnaît que Dieu existe. L'Ecclésiaste reconnaît que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et pourtant, il dit quand même que cette vie, sous le soleil, est comme de la vapeur, même avec Dieu dans l'équation. Et la clé, c'est de comprendre que ce que l'Ecclésiaste décrit, c'est justement le monde sous le soleil. C'est une expression qui revient très régulièrement dans le livre. Si vous lisez ce livre-là, vous verrez, plusieurs fois il a dit « le monde sous le soleil, la vie sous le soleil ». Ce monde sous le soleil, c'est la vie sur terre, ici-bas. C'est le monde que l'on connaît. Un monde qui se trouve entre Genèse 3, la chute et la malédiction du monde, l'entrée du péché dans le monde, et le retour de Christ. On est entre les deux, et c'est ça la vie sous le soleil, un monde corrompu. Un monde qui subit les conséquences de l'entrée du péché dans le monde. Un monde où on expérimente les souffrances physiques, le travail pénible, les difficultés relationnelles, la corruption, la mort. Dans Romains 8, verset 20, Paul nous dit que la création a été soumise à l'inconsistance, c'est-à-dire à la vanité, à la vapeur. Depuis l'entrée du péché dans le monde, tout dans ce monde est atteint par cette vapeur, par cette inconsistance. La création tout entière est esclave de ce cycle sans fin, et l'être humain est impuissant pour le briser. Ça fait partie de la vie ici-bas. Donc l'Ecclésiaste décrit tout simplement notre monde. Il décrit notre vie. Et donc la question, ce n'est pas de savoir si on va être déçu. On va être déçu. Mais la question, c'est de savoir comment bien vivre quand tout déçoit. La question, ce n'est pas de savoir si on va être déçu en 2025. On va être déçu. Mais c'est de savoir comment réagir à ces déceptions. Et le livre de l'Ecclésiaste nous aide à le faire. Et donc, on va voir maintenant trois leçons, trois applications qui découlent de cela, trois choses à garder en tête alors qu'on aborde 2025. La première, attendons-nous à être déçus. Attendons-nous à être déçus. S'il y a une chose que le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne, c'est que toutes les choses de cette vie sont comme un Big Mac. Alors, vous pouvez illustrer ça comme vous voulez, mais moi j'aime bien illustrer ça avec un Big Mac. Vous savez, on va au McDo, on voit l'affiche du Big Mac et waouh ! Ça a l'air d'être le meilleur burger qu'on ait jamais mangé, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on veut. On commande, on reçoit notre boîte, on ouvre la boîte. Ah, c'est pas pareil. Le pain est un peu dur, la salade est marron, la viande est toute sèche. On est déçu, n'est-ce pas? On est déçu, on est frustré. Mais le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne que toutes les choses de cette vie sont comme ça. Les choses de cette vie promettent plus que ce qu'elles peuvent offrir. Et donc, on devrait s'y attendre. On va rencontrer cette déception, cette vapeur, cette inconsistance dans les choses de cette vie, qu'on soit chrétien ou pas. Les enfants, je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Donc, écoutez-moi encore un petit moment, les enfants, c'est pour vous. Peut-être que vous avez reçu des cadeaux à Noël. Et les cadeaux de Noël, on les attend pendant des semaines. On a l'impression qu'on les attend pendant des années, n'est-ce pas ? On les attend pendant longtemps, 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 longtemps. Et puis on reçoit enfin le cadeau, et c'est magnifique, on va être super content, on l'ouvre, et des fois, waouh, c'était pas ce que je voulais, on est super déçu, n'est-ce pas? Ou alors, c'est ce qu'on voulait, on a l'impression que ce cadeau, c'est la meilleure chose au monde qu'on puisse imaginer. Et puis les jours passent, et les semaines passent, et le cadeau, il est un petit peu moins bien, n'est-ce pas? Il n'est plus aussi impressionnant qu'il était au début. On est un peu bof par rapport à ce cadeau. On est déçu. C'est la même chose qu'on rencontre, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, dans tous les domaines. On attend des vacances avec impatience pendant plusieurs mois, et puis c'est déjà terminé. Et il faut retourner au boulot. Une série Netflix qu'on dévore pendant plusieurs semaines, ça a l'air passionnant, et on termine et on se dit, mais au final, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que ça m'a apporté? On a hâte de faire une bonne raclette avec des amis, mais ils sont tous en retard. Et la personne qui devait amener l'appareil à raclette l'a oublié. On est déçu. De manière plus sérieuse, plus profonde, on peut prendre le domaine du travail. On étudie un domaine, on fait des études pendant plusieurs années et on ne trouve jamais le travail qui nous plaît, qui nous satisfait vraiment. On a l'impression que c'est métro, boulot, dodo. Ben, c'est normal dans un sens. C'est ça la vie sous le soleil. Ou alors un mariage, une amitié, quelque chose dans laquelle on avait placé beaucoup d'espoir, qui se révèle finalement ne pas être à la hauteur. C'est la déception. Je suis sûr que chacun de nous, on pourrait ajouter beaucoup de choses à la liste, n'est-ce pas? Mais on doit réaliser que ce sont des choses qui arrivent dans cette vie sous le soleil. On est en début d'année, on a beaucoup d'espoir peut-être pour 2025, une page qui se tourne, tout est nouveau. Mais dans nos attentes pour cette année, on devrait s'attendre à être déçus. Je me demande si parfois on n'a pas le risque d'être un peu naïf alors qu'on avance dans cette vie, comme si on s'attendait à ce que ce monde soit tout beau, tout rose, comme si on s'attendait à ce que les choses de ce monde nous donnent réellement la satisfaction, que tout fonctionne un peu comme on veut. Et puis on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et on est déçu. Non, plutôt, il faut avoir les bonnes attentes. Il faut s'attendre à être déçu. Jamais pleinement satisfait. On ne trouvera pas la joie ultime, ni dans ce loisir, ni dans cette amitié, ni dans cette vidéo YouTube, ni dans notre famille, ou nulle part ailleurs dans ce monde. Et ça nous aidera à mieux réagir quand on est confronté à un imprévu. Ça nous aidera à ne pas tomber dans la frustration, mais à plutôt dire, bah oui, c'est le genre de choses qui arrivent dans ce monde corrompu. La vie sous le soleil n'offrira pas mieux. On pourrait aussi dire que ce livre de l'Ecclésiaste nous aide à faire face à la nouveauté. Quand on est confronté à la nouveauté, on a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Oui, une nouvelle année, mais aussi d'autres choses, un nouveau smartphone, « Waouh, ma vie va changer !» Une nouvelle voiture, un nouveau travail ou quoi que ce soit de nouveau. On met notre espoir dans ces choses et on est tenté de croire que ce sont ces choses qui vont réellement nous apporter la satisfaction, régler nos problèmes, nous donner ce qu'on a toujours cherché dans un sens. C'est ça que les pubs font. Elles promettent la satisfaction, même si elles ne peuvent pas l'offrir. L'Ecclésiaste nous ramène à la réalité. Il ne nous amène pas vers le pessimisme en disant « rien ne va changer, ça ne sert à rien la nouveauté, etc. » Non, il nous amène vers le réalisme. Oui, super pour ce qui est nouveau, que ce soit un smartphone, une voiture, une maison, ça peut aider, mais ça ne va pas régler tous mes problèmes. Ça ne va pas enlever le caractère de vapeur de cette vie. Donc première leçon pour bien aborder 2025, s'attendre à être déçu. Deuxième leçon, tirée du livre de l'Ecclésiaste, profitons de la vie. Profitons de la vie. Vous connaissez probablement tous la chanson « Alors on danse » de Stromae, ou je ne sais jamais comment on le prononce après 8 ans en Belgique, mais voilà, vous avez compris de qui je parle. Il réalise la futilité de la vie, les galères au boulot, le manque de sens, les problèmes relationnels, le côté éphémère de la vie. Il se demande « Et alors, que faire face à la futilité de la vie ?» Sa conclusion, c'est quoi ?« Alors on danse, alors on danse, alors on danse. » Sa solution face à la futilité de la vie, c'est de danser pour tout oublier. Et en fait, si on y réfléchit, sa conclusion n'est pas si loin de ça, du livre, si loin que ça, du livre de l'Ecclésiaste. Regardez, c'est pas sur votre feuille, mais je vais vous lire chapitre 9, versets 7 à 10. Voilà ce que l'Ecclésiaste nous dit comme réaction face au caractère vaporeux de la vie. Ecclésiaste chapitre 9, verset 7, « Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous tes jours de vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Que faire face à la futilité de la vie ? Il ne dit pas « danse », mais il dit « profite de la vie ». Fais ce qui te rend heureux. Fais des choses qui te donnent de la joie. Et l'Ecclésiaste dira ailleurs, dans le chapitre 3, versets 12 et 13, que trouver de la joie dans les choses de cette vie, c'est un don de Dieu. En d'autres mots, il faut cueillir le bonheur tant qu'il est là. Donc la logique, c'est celle-ci. Puisque la vie est décevante et éphémère, alors profites-en au maximum. Puisque le bonheur est comme de la vapeur, alors amasse autant de vapeur que tu peux, parce que ça ne va pas durer. Alors bien sûr, il n'est pas question ici de faire des choses qui seraient immorales ou de poursuivre ce qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est là où la réaction chrétienne, la réaction de l'Ecclésiaste à la futilité de la vie est différente de celle que le monde offrirait. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi sans se soucier des conséquences ou des limites morales, mais il s'agit ici de profiter librement du monde que Dieu a créé, d'une manière qui honore Dieu. Il ne s'agit pas non plus de profiter de ces choses en faisant des idoles, en pensant qu'on va pouvoir trouver la satisfaction dans ces choses. Non, on garde en tête tout ce qu'on vient de voir. Toutes les choses de ce monde sont comme de la vapeur. et elles ne vont pas nous satisfaire réellement. Donc plutôt, on profite de ces choses en étant conscient de ça, que ce n'est pas ça qui définit notre vie. Mais ça n'enlève rien au message de l'Ecclésiaste qui nous dit réellement, il faut profiter de la vie. Ce n'est pas qu'il n'y a aucune joie dans cette vie ici-bas. Non, il y a de la joie, mais c'est que cette joie ne dure pas. Cette joie ne satisfait pas. Alors ce qu'il faut faire, c'est en profiter tant qu'on peut. Et l'Ecclésiaste reconnaît que cette joie, ce bonheur qu'on peut avoir même au travers des choses de ce monde, est un cadeau qui vient de Dieu. Là encore, on voit ça au chapitre 3. Et honnêtement, ce message, c'est un message que le Benjamin, il y a 7 ou 8 ans, aurait eu besoin d'entendre. Et peut-être un message que vous avez besoin d'entendre ce matin. Parce que ça va à l'encontre d'une mauvaise attitude chrétienne qui rejetterait les plaisirs de cette vie sous prétexte que ce n'est pas spirituel, que ça n'a aucune valeur dans l'éternité, qu'il faut uniquement occuper son temps avec ce qui dure dans l'éternité. Non, ce n'est pas ce que l'Ecclésiaste nous dit. Le sport, la musique, l'art, les films, l'amitié, l'humour, la bonne nourriture, le voyage, la découverte, les amitiés, tant que ces choses ne sont pas immorales, contraires à ce que Dieu veut, alors on doit les recevoir comme des cadeaux qui viennent de Dieu, dont on est appelé à profiter. Si chaque fois qu'on est confronté à ces choses, on ressent de la culpabilité, peut-être qu'on a besoin de réentendre le message de l'Ecclésiaste. On a peut-être à tort distingué ce qui est spirituel d'un côté et qui plairait à Dieu, et ce qui n'est pas spirituel de l'autre et qui ne plairait pas à Dieu. Et donc on a besoin de retrouver le bon caractère des choses que Dieu a créé. Là encore, pas d'une manière qui est immorale. Une attitude chrétienne mature recevra les plaisirs de cette vie comme des cadeaux de Dieu, en profitera, y trouvera de la joie, tout en sachant que ces choses sont comme de la vapeur, tout en sachant que ces choses ne pourront pas nous donner la satisfaction ultime. Que le but global de notre vie, c'est effectivement de vivre pour Jésus et d'investir dans l'éternité. Mais que ça n'implique pas de dénigrer les joies que Dieu nous donne sur cette terre. Ça nous aide à voir que le livre de l'Ecclésiaste, ce n'est pas un livre qui est pessimiste ou négatif, mais plutôt un livre qui nous amène à être réaliste. Réaliste sur le caractère de cette vie. Oui, tout est vapeur, rien n'a de consistance, rien ne satisfait, mais on ne tombe pas dans la dépression face à ce constat. On essaie plutôt de se réjouir tant que l'on peut. Troisième leçon du livre de l'Ecclésiaste pour notre année 2025. Pour terminer, trouvons refuge en Dieu. Trouvons refuge en Dieu. En lisant l'Ecclésiaste, on a parfois l'impression d'être bloqué dans une impasse. Parce que d'un côté, on nous dit que tout est de la vapeur, que tout déçoit, et de l'autre côté, on nous dit qu'il faut profiter de la vie tant qu'on peut. Mais on sait qu'en profitant de la vie, on sera déçu et on ne sera jamais pleinement satisfait. On sait que le bonheur est éphémère et qu'il ne dure pas. Et alors on se dit, mais que faire? Où se tourner? On a l'impression que ce que ce livre de l'Ecclésiaste fait, c'est saper, enlever tous nos fondements. Et on ne sait plus à quoi se raccrocher. Et je crois que c'est exactement ce que le livre de l'Ecclésiaste veut faire pour nous. C'est exactement le but de ce livre, de saper tous nos fondements, de saper notre confiance dans les choses de cette vie pour qu'on s'attache à Dieu, pour que l'on soit amené à craindre Dieu. Je vous lis le chapitre 3, verset 14. Voilà ce que l'Ecclésiaste dit. « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. » De manière surprenante, dans ce verset, on découvre quelque chose qui n'est pas de la vapeur. On découvre quelque chose qui dure pour toujours, ce que Dieu fait. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours. Et on apprend dans ce verset que Dieu a volontairement voulu ce contraste entre lui, sa personne et ses œuvres qui durent à toujours et cette vie ici-bas qui est marquée par la vapeur. Pourquoi est-ce qu'il a voulu cela? Afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Afin qu'on soit amené à le reconnaître comme Dieu, à l'aimer, à l'adorer, à vivre pour lui. Alors quand on se retrouve dans cette impasse du livre de l'Ecclésiaste, qu'on réalise que tout dans cette vie déçoit, il faut trouver refuge en Dieu. C'est là où l'Ecclésiaste lui-même veut nous amener. Il faut réaliser que tout est éphémère, il faut réaliser que tout est de la vapeur pour que l'on s'attache à Dieu, pour qu'on trouve le repos et la satisfaction en lui, dans le Créateur, pas dans la création, dans celui qui a donné ces bonnes choses, aussi éphémères soient-elles, et pas dans les choses qu'il a données. Ce Dieu-là, c'est le seul qui peut donner un espoir face à la futilité de la vie. On a parlé de ce cycle de l'Ecclésiaste, on pourrait dire, où tout est vapeur et l'être humain est incapable de faire changer cela. On voit surtout ça dans la première partie du chapitre 1. Il y a un cycle de vanité qui continue, les générations se succèdent et il n'y a rien qui change. L'être humain est incapable de briser le cycle de vapeur. L'être humain est incapable de libérer la création de l'esclavage, de l'inconsistance. Parce que depuis la chute, la mort est entrée dans le monde et met fin à tous les espoirs humains. La mort, c'est la preuve ultime de la futilité de la vie. À quoi bon vivre, travailler et se donner de la peine si tout part en fumée? Mais on sait qu'il y a une personne qui a brisé ce cycle de l'Ecclésiaste. On sait qu'il y a une personne qui a brisé ce cycle de vapeur. On sait qu'il y a une personne qui a briser l'esclavage de la mort. C'est le Seigneur Jésus. Sur la croix, Jésus règle le problème à la racine. Jésus règle le problème du péché. C'est ça qui avait entraîné le fait que la création a été soumise à l'inconsistance, comme on voit dans Romains 8, le péché. Mais Jésus prend sur lui le jugement qu'on mérite. Jésus prend la colère à notre place, la colère de Dieu que nos offenses envers Dieu ont entraînée. Jésus nous offre par sa mort, par sa résurrection, le pardon des péchés, une vie nouvelle, une relation rétablie avec Dieu et une vie éternelle. Par sa mort, Jésus brise le cycle de vanité, l'esclavage de la corruption. Jésus brise la mort elle-même. Jésus donne l'espoir d'un monde glorieux, d'un monde libéré de toute vapeur, d'un monde éternel où on vivra réellement la satisfaction complète. Imaginez un monde où il n'y aura plus de déception, parce qu'il n'y aura plus rien qui pourra nous décevoir. Et dès aujourd'hui, Jésus nous donne le pardon des péchés, une relation rétablie avec Dieu. Oui, c'est vrai que ça n'enlève rien aux déceptions qu'on va connaître dans cette vie sous le soleil, aux déceptions qu'on va connaître en 2025. Ça continue, mais on aborde ces déceptions différemment, en sachant que cette vie n'est pas notre vie. Que ce monde sous le soleil n'est pas notre monde. On a un monde qui nous attend là-haut. Et donc oui, on profite des choses de ce monde, du bonheur que Dieu nous donne ici-bas, comme un cadeau tant qu'on peut l'avoir. Et en même temps, on met tout ça en perspective, en voulant investir dans ce qui compte vraiment, en voulant investir dans ce qui n'est pas de la vapeur, en voulant investir dans ce qui dure pour l'éternité. Dans 1 Corinthiens 15, Paul explique aux Corinthiens que Jésus est ressuscité et que par sa mort et sa résurrection, Jésus a brisé la mort, le péché, pour toujours. Il a remporté la victoire ultime. Et voilà comment Paul termine ce chapitre. Voilà la conséquence de ce que Jésus a fait sur la croix par sa mort et par sa résurrection. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain. » Dans le Seigneur. Il faut tenir ferme et il faut travailler avec zèle à l'œuvre du Seigneur, au progrès de l'Évangile, à l'édification des autres chrétiens, parce que ça, c'est pas vain. Parce que ça, c'est pas de la vapeur, c'est pas de la vanité. Faire cela, c'est investir dans ce qui dure toujours. Alors qu'on termine, oui, merci Seigneur pour l'Ecclésiaste qui nous donne une bonne dose de réalisme, n'est-ce pas, pour aborder 2025. Oui, l'Ecclésiaste sape réellement notre confiance dans les choses de cette vie, nos attentes, avec des mots assez forts qui pourraient sembler un peu pessimistes. Mais on ne s'arrête pas là. Il veut nous amener à réaliser cela pour qu'on puisse profiter de la vie tant qu'on peut. Mais on ne s'arrête pas là non plus. Il veut nous amener à réaliser cela, à profiter de la vie, tout en craignant Dieu, en vivant pour lui, en disciple de Jésus, celui qui a résolu le problème de la vanité pour toujours. Donc pour 2025, on doit garder ces trois choses en tête. D'abord, s'attendre à être déçu. on va vivre le syndrome du panier à l'inchal encore et encore, dans plein de domaines, dans cette vie. Deuxièmement, il faut profiter du bonheur tant qu'on peut. On peut se demander, qu'est-ce que je peux faire cette année qui me rend heureux, qui me donne de la joie. Et troisièmement, il faut que j'investisse dans ce qui dure toujours, ce qui décevra jamais, l'œuvre de l'Évangile, parce que ça, ce n'est pas de la vapeur. Alors prions pour terminer. Je vais prier. Notre Dieu, nous te remercions pour ce livre de l'Ecclésiaste qui fait partie de ta parole que tu as voulu nous donner pour nous enseigner sur la réalité de cette vie sous le soleil. Aide-nous à être réalistes face à cette année qui est devant nous. Aide-nous à profiter, notre Dieu, de la joie et du bonheur que tu nous donnes dans les choses que tu as créées d'une manière qui te glorifie. Et aide-nous, notre Dieu, à nous confier en toi, à investir notre temps, notre énergie, nos vies dans ce qui compte pour toujours. On te remercie, notre Dieu, pour le Seigneur Jésus qui a brisé le cycle de la vanité une bonne fois pour toutes. C'est en son nom que l'on prie. Amen.